って。Le samedi matin, mon père m'emmenait à la synagogue. Après l'office, suivant la coutume, il conviait un pauvre à notre table et le traitait en invité d'honneur. Il le plaçait à sa droite, ne s'adressait qu'à lui, le valorisait et lui témoignait un tel intérêt que nous avions l'impression de ne plus exister. Élie Buzyn est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Ella Fitzgerald.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By mere fist of shame, please let me explain. By mere fist of shame means that you're grand. By mere fist to shame, again I'll explain, it means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere fist to shame, so kiss me and say you understand. Say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. So kiss me and say you understand.
Élie Buzyn, est-il vrai que quand vous étiez petit chez vos parents à Lodz en Pologne, quand vos parents recevaient des amis, vous n'aviez qu'une idée, c'était de vous mettre sous la table pour dénouer les lacets de ces messieurs?
Oui, c'est exact. Non seulement dénouer les lacets, mais les attacher les uns aux autres, surtout à des membres de ma famille. Et donc, c'était pour moi, quand ils se levaient, ils étaient un peu gênés, et puis il fallait défaire et tout ça. Bon, c'était mon plaisir à moi.
Et votre mère, elle disait quoi?
Elle disait, elle protestait un petit peu, mais enfin, c'était pas bien grave. C'était moins grave quand je m'en prenais à l'employé de maison qui amenait la soupière et tout ça. Je lui mettais un traversin dans le couloir pour qu'elle tombe avec. Là, j'étais corrigé par ma mère d'une enfant assez sévère. J'ai pu recommencer.
Alors, vous êtes le dernier d'une famille nombreuse.
Oui.
Et vous avez vécu une enfance manifestement très heureuse.
Très heureuse. J'étais choyé, adoré par tout le monde, c'est vrai.
Une éducation religieuse ?
Pas trop. Non, parce que mon frère aîné, qui avait 11 ans de plus que moi, était déjà pas religieux. Il avait rejeté la religion. Et comme mon père était assez absent parce qu'il était très occupé, c'est mon frère qui me guidait plutôt. Il me guidait dans son sens à lui. C'est-à-dire aller dans une école, mais pas religieuse. Et j'allais dans une école où on apprenait l'hébreu quand même. C'était un lycée un peu particulier. On pouvait passer le baccalauréat, première langue, l'hébreu moderne. Et mon frère était bachelier de ce lycée. D'ailleurs, sur la photo dans le livre, il a la casquette du lycée. Et il voulait que je fasse la même chose que lui. Et j'étais vraiment sous son influence positive.
Alors, on parlera du destin tragique de votre frère et du destin tragique de votre famille entière, Élie Buzyn. Pourquoi vous vous appelez Élie ?
Ça, c'est un peu particulier parce qu'en fait, mon prénom d'origine est le prénom de mon grand-père paternel. C'est-à-dire mon grand-père paternel que je n'ai pas connu parce qu'il est mort à l'âge de 37 ans ou 38 ans de tuberculose. Et je ne l'ai pas connu, j'ai juste entendu parler de lui. Et j'avais son prénom. Et son prénom, d'ailleurs, il est marqué sur la tombe de mon oncle à Tours, dans la ville de Tours en France, où il a été enterré. Et cet oncle, qui est le frère de mon père, Buzyn, cet oncle, sur sa tombe, il est marqué son prénom à lui. Et comme dans la coutume juive, on marquait toujours le prénom de Jean, fils de. Il était le fils de mon grand-père, donc j'ai mon prénom gravé sur la tombe de mon oncle de Tours en France. Et quand chaque fois j'y vais, j'essaie d'y aller peut-être une fois par an, avec des membres de la famille qui sont toujours à Tours, on va au cimetière et je rends hommage à mon oncle et aussi à mon grand-père en même temps.
Élie Buzyn, vous avez été élevé dans une famille intellectuelle et prise de culture qui pratiquait le judaïsme. Vous alliez à la synagogue toutes les semaines, mais qui ne croyait pas forcément.
Enfin, moi, je ne pouvais pas dire que j'étais conscient que je croyais ou je croyais. J'avais un petit peu quand même imprégné par la religion de mon père et surtout de mon grand-père maternel que j'ai bien connu jusqu'à la guerre. Ses grands-pères m'ont enseigné beaucoup de choses.
Quelles choses ?
La première chose qu'ils tenaient, parce qu'à l'époque, dans les foyers juifs, la personne la plus âgée tenait un registre d'état civil de toute la famille. Et dès que je savais lire l'hébreu, à l'âge 5-6 ans, 7 ans, je me souviens, il m'a pris sur les genoux et il m'a montré un énorme livre, une Gemara, la première page qui était blanche, sur laquelle il était noté l'état civil, que des hommes d'ailleurs, ça veut dire les femmes n'y étaient pas, que des hommes avec leur date de naissance hébraïque et les dates de leur mort éventuelle. Et mon grand-père m'a pris sur les genoux, il m'a montré, m'a expliqué tout ça, et ça remontait à 150 ans, des générations qui suivaient comme ça. Et il m'a montré que moi, j'étais le dernier né, petit-fils né, j'étais marqué dans ce livre. Mon prénom était marqué dedans. Et donc, j'étais très fier de ça.
Quand avez-vous ressenti et avez-vous ressenti durant votre enfance et votre adolescence, Élie Buzyn, des signes d'antisémitisme dans votre quotidien ?
Il faut dire que personnellement dans le quotidien, très peu. Très peu parce que les communautés étaient assez séparées. n'était pas trop en contact avec les autres, et donc les manifestations antisémites n'étaient pas à la portée de tout le monde. Je me souviens une seule fois où j'ai subi vraiment une agression importante, c'était pendant les vacances, quand mon père venait nous rejoindre pour le Shabbat, pour la fin de la semaine, puisqu'il travaillait, était occupé, et moi j'étais avec ma mère et de ma sœur, enfin, la famille en vacances, et j'allais chercher mon père qui arrivait nous rejoindre à la station des autobus par lequel ils arrivaient. Et c'est comme ça, une fois en allant à pied, j'étais agressé par 5 jeunes polonais qui m'ont agressé parce que j'étais juif, et ils m'ont battu, ils m'ont enfin malmené vraiment d'une façon extrêmement désobligeante, comme j'étais tout seul contre 5. Et vous ne pouvez pas vous défendre contre 5 personnes difficiles. Finalement, je suis arrivé, j'ai raconté ça à mon père, et mon père m'a calmé en disant « on ne fait pas attention, ce n'est pas très important, etc. etc. » Mais je n'ai pas eu d'autres manifestations quotidiennes comme ça. Non, pas du tout.
Que s'est-il passé pour vous et votre famille le 7 mars 1940 au soir, dans cette ville de Lodz, où vous habitiez dans une avenue centrale?
Ce qui s'est passé, c'est que la Pologne a été envahie après le pacte soviéto-allemand. La Pologne a été dépecée avec l'accord de Staline et d'Hitler d'envahir la Pologne le 1er septembre. Et le raccord date du 8 jours ou 15 jours avant, signé Hitler, Staline, de non-agression, alors qu'ils étaient ennemis jurés. Ils ont signé ce pacte, ils ont dépecé la Pologne, l'Est qui appartenait à la Russie soviétique, et l'Ouest aux Allemands. Et c'est ainsi qu'ils ont envahi notre ville, Lodz, qui était à l'Ouest. Ils nous ont envahi le 1er septembre 1939, et très très vite, ils ont décidé que tous les Juifs devaient se déplacer volontairement pour aller habiter dans un quartier les plus déshérités de la ville pour y constituer un camp de travail. Et les gens ne sont pas allés. Quelques-uns sont partis, mais la majorité n'a pas bougé. Et mon père négligeait cela en disant « c'est pas important, il ne faut pas y aller, ça va s'arranger ». Il était assez optimiste. Il avait vraiment une grande estime de la culture allemande. Il parlait l'allemand, il travaillait avec des Allemands, et donc on n'a pas bougé. Jusqu'au 7 mars, ils sont venus nous déloger, il y avait une violence énorme, nous chasser de l'appartement où nous étions pour nous regrouper dans une cour voisine. Nous habitions au numéro 60, et on nous a regroupés au numéro 56 avec les autres habitants de ces immeubles. Et c'est là qu'a commencé vraiment une chose extrêmement gravissime, grave, puisque pendant cette soirée, nous attendions, on ne savait pas comment les choses vont se passer. Le nazi qui conduisait l'action a choisi 3 jeunes gens qui étaient dans le groupe. Il les a alignés contre le mur et il a tenu un petit discours en disant « Voilà, vous ne vouliez pas vous déplacer vous-même, maintenant vous allez déporter vers ce quartier, vers ce camp. Et si vous essayez de vous enfuir, vous opposer à cette déportation, voilà ce qui va vous arriver. » Il a fait une escouade de 16 à fusiller 3 jeunes gens devant nous. Et parmi eux, il y avait mon frère aîné qui avait 22 ans. Moi, j'avais 11 ans. Il a été assassiné comme ça, devant sa mère et son père. Et c'était vraiment le drame qui nous a frappés d'une façon tellement violente, tellement difficile. On ne se remet jamais de ça. Même aujourd'hui, on ne se remet pas. On ne peut pas se remettre. Eh bien, il a été fusillé. Et à partir de là, on nous a chassés, on nous a convoyés vers ce camp. Là a commencé toute une autre vie. Et il fallait survivre, ce qui était très, très difficile pour ma mère, qui a été extrêmement touchée par son fils aîné. D'ailleurs, vous avez entendu la chanson, là, au début. « Famille Bestouchen, famille Ostouchen, tu es pour moi, tu es la plus belle, tu es la plus jolie des femmes. » C'était juste avant la guerre, 2 ans avant, je crois, que notre frère nous a réunis, ma sœur et moi, pour écouter la radio, sans nous dire. Et à un moment donné, c'était en fait l'anniversaire de ma mère. La radio a annoncé que son fils, Avram, a commandé une chanson pour elle. Et c'est ainsi qu'on a diffusé la chanson en question. Ma mère était là aussi, puisqu'il s'est arrangé pour qu'elle soit là, justement pour écouter. Et il a pris dans les bras et il a dansé avec elle au son de cette musique-là, qui est une espèce de valse. Et j'ai vu ma mère tellement heureuse, je ne peux pas encore jusqu'à aujourd'hui savoir ce qui s'est passé après, comment il a été assassiné, et l'amour qui existait entre cette mère et son fils aîné. C'était quelque chose absolument indescriptible. Et ça fait, c'est chaque fois que j'entends cette chanson, je ne peux pas me retenir, j'ai des larmes aux yeux qui m'arrivent parce que je vois la tête de mon frère et de ma mère.
Vous vous souvenez de tout ?
Avec précision. Vraiment, je me souviens du sourire de ma mère, du sentiment de bonheur qu'elle sentait en dansant avec son fils. On ne peut pas oublier ça, c'est pas possible.
Mais c'est pour votre mère que vous avez décidé de continuer à vivre et de vous battre pour survivre.
Oui, parce que c'est elle qui m'a conjuré. 2 ans après, quand j'ai eu ma bar mitzvah, quand j'ai eu 13 ans, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit 2 choses extrêmement importantes à cette époque. Elle m'a dit la première, que la douleur de la perte de son fils aîné est absolument inguérissable. Et qu'elle ne s'en remettra pas, que mon père non plus s'en remettra pas, que ma sœur était malade. Elle m'a dit, mais il faut que tu saches, les gens qui nous quittent, qui meurent, ils meurent d'abord pour eux-mêmes. Et je dois vous dire que mon frère, qui avait 11 ans de plus que moi, et donc moi j'ai eu 90 ans hier, il aurait eu 11 ans de plus. C'est-à-dire 101 ans. Il y a des gens maintenant, qui ne sont pas exceptionnels, qui vivent à 101 ans. On a enterré un ami, Georges Langer, un grand résistant. Il est mort à 108 ans. C'était un ami que je connaissais très bien. D'ailleurs, je suis revenu exprès pour aller à son enterrement à Montparnasse. Et donc, elle m'a dit, les gens meurent d'abord pour eux-mêmes. Ils ne meurent pas pour les autres. C'est une douleur, mais ils perdent le temps qu'il leur restait à vivre, ils le perdent en mourant, quelle que soit la mort. Et ça, je m'y suis rendu compte, effectivement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, elle m'a conjuré en disant, tu es le seul, il faut que tu fasses tous les efforts pour survivre à cette guerre, pour essayer de retrouver notre famille en France, puisqu'elle avait 2 frères à Paris. Et puis mon frère, père avait un frère à Tours, je le connaissais, on se connaissait tous. Il m'a dit, il faut que tu essaies de le retrouver et pour lui raconter ce qui est passé à notre famille en Pologne. Et c'était pour moi une espèce de oukase, si vous voulez, une espèce d'ordre qui m'a fait supporter énormément de choses après, pendant ces années qui ont suivi, de 42 à 46, à 45, à la libération, grâce à cette phrase. Parce que chaque fois que j'étais au bout du rouleau, comme on dit, que j'en avais marre un peu, eh bien, je pensais aux paroles de ma mère, et ça me permettait de repartir. Et je lui dois, en partie, cette phrase, ma survie.
En août 1944, à l'approche des armées soviétiques par l'Est, les nazis décident de liquider le ghetto où vous étiez enfermé avec votre famille, Élie Buzyn, et puis vous êtes emmené dans des trains sans que les nazis ne donnent de destination, et vous allez vous trouver à Auschwitz. À Auschwitz, vous allez pouvoir continuer à vivre. À l'époque, vous avez 15 ans, hein, à peine. Vous allez pouvoir continuer à vivre parce que vous allez mentir. À l'arrivée du train, il y a des images qui attestent de cela. Et puis ensuite, Alain René a pu faire ce film magnifique qui s'intitule « Nuit et brouillard », mais il y a des images d'archives qu'on peut voir quand on va à Auschwitz-Birkenau. Des images d'archives qui témoignent de ce qui se passait. À l'arrivée du train, on divisait les personnes qui sortaient du train en deux files. Et vous, on vous a dit de mentir.
Ce qu'il y avait, justement, cette entraide. Parce que les gens, dans tous les camps, quand vous arriviez dans un camp, il y a des gens qui étaient déportés dans ce camp, qui s'occupaient des arrivants. Ils s'occupaient pour les recevoir, pour prendre leurs affaires, pour les aligner, pour passer la sélection et tout. Et quand ils voyaient des jeunes comme moi, qui n'étaient pas très grands, et ils savaient ce qu'on risquait exactement, et qui nous disait, surtout, dis que t'as 17 ans, j'avais 15 ans effectivement, dis que t'as 17 ans, dis que t'as 18 ans, sans savoir à quoi cela correspondait, je l'ai compris en passant la sélection. Quand on m'a demandé mon âge, j'ai compris, et donc j'ai menti sur mon âge, et c'est ça qui m'a permis d'être sélectionné du côté du travail, au lieu d'être sélectionné pour la chambre à gaz.
De quel type de travail deviez-vous vous acquitter à l'intérieur de ce camp d'Auschwitz ?
Bon, dans ce camp d'Auschwitz, il y avait différents travaux. Comme je l'ai dit, il y avait d'abord des travaux qui se passaient autour du camp lui-même, et à 4-5 kilomètres. Et là, on sortait à pied et on rentrait à pied le soir du camp Auschwitz 1, qui était le camp de travail. Parce que Birkenau, c'était le camp d'extermination. Eh bien, dans ce camp de travail, je sortais tout le matin. On travaillait très dur dans des carrières de pierre, généralement, où il fallait extraire des blocs de pierre, les charger sur des wagons, et puis rentrer le soir après le travail, et puis surtout ramener nos cadavres. Parce que si on ne ramenait pas les cadavres, ils étaient étiquetés comme évadés. Et là, l'appel pouvait durer des heures, c'était extrêmement pénible. Et donc l'obsession au travail, c'est en rentrant, ramener nos cadavres.
Les cadavres de vos camarades qui n'avaient pas pu supporter jusqu'à la fin de la journée.
Non, soit ils ne travaillaient pas assez vite, pas assez bien, soit ils étaient trop fatigués, ils étaient ou exécutés, ou ils tombaient vraiment, ils mouraient comme ça au travail. Mais ils n'étaient pas gazés.
Quelle idée vous aviez de la vie et de la mort à cette période-là, vous qui étiez si jeune et qui étiez sans arrêt entre la vie et la mort ?
On ne pense pas tellement, on ne pense pas beaucoup. On essaie de survivre. Et j'essayais d'être fidèle à la volonté de ma mère, de tenir le coup, de survivre. Et on survivait du jour au lendemain. Et comme disait un de mes camarades, ce n'était pas du jour au lendemain, c'était du matin à l'après-midi, et l'après-midi, au lendemain, etc. Et c'était un challenge quotidien, comment faire pour tenir le coup.
Vous saviez que c'était presque la fin de la guerre ? Est-ce que vous aviez rumeurs qui parvenaient jusqu'à vous ?
Non, on ne savait pas trop de choses. Il faut dire, dans le ghetto de Lodz, on était complètement isolés. On avait très peu de renseignements de ce qui se passait dehors, parce qu'il n'y avait pas de tout à l'égout, comme ça existait à Varsovie, par exemple, où ils savaient tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la révolte en 1943, parce qu'ils connaissaient Auschwitz, Birkenau, Treblinka, où les gens du ghetto de Varsovie ont été assassinés. Ils savaient tout, alors que nous, on était enfermés, on n'avait pas de contact avec l'extérieur, on ne savait rien. Et on ne savait pas qu'Auschwitz-Birkenau existait. Et les nazis, pour liquider le camp, nous ont dit qu'ils allaient nous transférer en Allemagne, dans un camp de travail, où la condition de vie était meilleure que là-bas. Et on a cru. On se présentait à la gare volontairement. Et j'ai même poussé mes parents d'y aller le plus rapidement possible, en pensant en arrivant là-bas, on aura une meilleure place, etc. Et on est arrivé à Birkenau-Auschwitz.
Et là, vos parents ?
Mes parents étaient exactement tout de suite sélectionnés du côté gauche, sans savoir à quoi ça correspondait, moi. Et moi, on m'a demandé mon âge, on a éprouvé ma résistance, on me donnait un coup de poing violent dans la poitrine. Comme je ne suis pas tombé, on m'a mis de l'autre côté, du côté du travail.
Et là, vous deviez faire quoi ? À Birkenau ?
À Birkenau, on est resté quelques jours, le temps de tatouer, d'être enregistré et d'être transféré à Auschwitz I, dans le camp de travail, où on était affecté à des commandos de travail pour sortir tout le matin.
Alors parlons de ce matricule, Élie Buzyn. Vous en parlez dans votre livre « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre ». Ce matricule qui vous a été inscrit dans votre chair de manière indélébile, vous avez souhaité, quand vous avez pu regagner la France à la fin de la guerre, vous avez souhaité, à un moment, vous en débarrasser. Votre histoire, pas vous en débarrasser, vous avez souhaité l'effacer. Je ne sais pas quel terme il faut employer. Votre histoire est extraordinaire, parce que vous avez combien de vies ? Vous nous avez dit, hier j'ai eu 90 ans. Vous avez été médecin, chirurgien. Vous avez parcouru le monde entier pour des missions humanitaires. Vous avez obtenu toute la reconnaissance du corps médical pour votre manière de pratiquer la médecine. Combien de vies vous avez aujourd'hui ? Combien vous en avez eu et combien vous en avez qui vous attendent, selon vous ?
Je ne sais pas combien j'ai eu, je ne les ai pas comptées.
Plusieurs, alors, de nombreuses.
Plusieurs vies, c'est vrai, assez diversifié. Et ce qu'il faut dire par rapport au matricule, ce n'est pas tout de suite que je voulais m'en débarrasser, pas du tout. Il a fallu plus de 15 ans. Et je n'y pensais même pas. Au matricule, il ne me préoccupait pas. C'est quand j'ai décidé de reprendre vie dite normale, c'est-à-dire faire des études, et je me suis trouvé confronté, comme j'avais 10 ans de plus que l'ensemble des étudiants qui étaient mes contemporains, je me suis rendu compte que le jeune ne savait rien du tout de ce qu'était le matricule. Quand il le voyait, quand il était, on se lavait les bras, les mains pour aller en salle d'opération, il voyait un tatouage comme ça, il me demandait si c'était le numéro, comme c'était un numéro, il me demandait si c'était le téléphone de ma copine. Alors, comme vous n'aviez, j'avais pas du tout envie de leur expliquer que ce n'était pas tellement le téléphone de ma copine, je disais rien, je ne répondais pas. Et ça, c'était déjà gênant, mais enfin, c'était supportable. C'était un peu carabin, un peu... Mais ce qui était insupportable pour moi, c'est que nos patrons, qui eux étaient au courant de ce que c'était sur les numéros, et que eux, certains d'entre eux, étaient même des collaborateurs du régime de Vichy et de tout ce qui s'est passé en France, parce que moi je pensais que la France était préservée, que l'Europe de l'Ouest n'était pas trompée dans le crime comme l'Europe de l'Est, et en ce sens quoi je m'y suis trompé, j'ai remarqué que l'Europe de l'Ouest, toute l'Europe, était unie dans la destruction des Juifs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'Europe. Je suis parti en Palestine, en fait, sur les traces de mon frère, qui était un grand sioniste, qui devait partir, qui en a été empêché par mon père. Et mon père s'en voulait pendant toute la vie qu'il a vécu, les 4 ans, de 40 à 44, où il a été assassiné à Auschwitz-Birkenau. Il s'en voulait, il s'est rendu responsable de la mort de son fils. Et c'était assez dramatique de voir cet homme très énergique, très actif, devenir vraiment quelqu'un complètement ravagé par l'assassinat de son fils aîné. Et il s'est accusé de sa mort. J'ai tué mon fils, je suis responsable de sa mort. Si je l'avais laissé partir, il serait vivant etc., etc. Et pour moi, qui avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'était extrêmement douloureux. Et surtout, je ne savais pas comment aider.
Et quand avez-vous su, Élie Buzyn, la mort de vos parents? Quand l'avez-vous appris? Alors, et comment?
Quand j'ai 15 ans, je suis sélectionné pour le travail. On me fait le numéro. C'est un acte assez violent en plus. Et puis là, j'ai demandé aux gens qui s'occupaient de nous et les autres qui sont passés à gauche, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et je peux vous dire, malgré mon vécu de 4 années déjà d'enfermement dans ce camp de travail où j'ai travaillé de l'âge de 11 ans à 15 ans et que j'ai subi la famine, les maladies, tout ce que vous voulez, eh bien, malgré ces 4 années, on m'a expliqué ce que sont devenus les gens qui sont allés à gauche, comment on les assassine dans les chambres à gaz, en quelques mots, en quelques secondes. Ça a été pour moi un choc, une telle violence que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai dit, moi je vais quitter d'ici, je vais aller le rejoindre là-bas de l'autre côté. On m'a dit, tu ne peux pas le rejoindre là-bas, ici c'est fermé, il n'y a pas de communication possible. Et de toute façon, même si tu pouvais sortir de là, ça se trouve, ils sont déjà partis, ils ont été déjà, c'était 24-48 heures après, il m'a dit, ça se trouve, ils sont déjà assassinés, ils sont dans la fumée, que tu vois s'échapper des cheminées de four crématoire. Et c'est là que j'ai eu en même temps l'impression que le peu de religiosité que j'avais, qui m'a été transmise, mon grand-père, mes grands-parents, mes parents, s'est envolé avec mes parents dans la fumée des fours crématoires d'Auschwitz.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Élie Buzyn, la musique du film La Liste de Schindler.
Thank you.
Au matin du 11 avril 1945, nous avons vu les SS détaler tels des rats. Certains ont même été faits prisonniers par les déportés qui avaient pris le contrôle du camp avant l'arrivée des Américains dans l'après-midi. Au beau milieu du camp, trônait un camion rempli de prisonniers allemands. Les militaires américains se sont approchés de nous et ont tendu un fusil mitrailleur à l'un de mes copains en disant « Si tu veux, tu peux tirer dedans ». Mon camarade a rejeté la proposition, cela a été son premier acte de liberté, refuser de s'identifier au rôle des victimes ou de bourreaux définis et assignés par les SS, s'interdire de répondre aux forces destructrices par la destruction, résister à la tentation de s'identifier aux SS. Voici ce que vous écrivez, Élie Buzyn, dans « J'avais 15 ans, vivre, survivre et revivre ». Et ça, c'était le début du réapprentissage de la liberté. Mais après, c'est une autre vie qui commence pour vous. Une autre vie absolument extraordinaire. Parce que vous nous l'avez dit, à l'âge de 11 ans, vous êtes mis dans un ghetto. À l'âge de 15 ans, dans les camps de concentration. Vous en sortez à l'occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous n'avez qu'un désir en tête, c'est pouvoir retrouver cet oncle dont vous nous avez parlé en début d'émission. Et ce n'est pas fini, vous qui n'avez pas fait d'études, et pour cause, vous qui êtes un jeune homme à ce moment-là, vous décidez de devenir médecin. Et vous tombez. Non, c'est pas ça, vous me dites non.
Pas tout de suite.
Ah bah pas tout de suite. Oui, vous allez en Palestine d'abord, sur les traces du désir qu'avait votre frère. Et pour rendre hommage à votre père.
Ça a pris 8 ans. Et je suis allé sur cette race. D'ailleurs, je m'étais demandé, pendant très longtemps, je m'étais demandé, comment se fait-il, alors que j'étais parmi les arrivants en France en 1945, accueillis par De Gaulle, et grâce à lui et grâce à sa nièce Geneviève Antonios De Gaulle. C'est elle qui a su que nous étions en déshérence dans le camp de Buchenwald, que nous ne voulions pas quitter. On ne voulait pas rentrer dans nos pays respectifs, alors que tous les déportés ont été rapatriés très très rapidement. Mais nous, comme on savait que tous nos biens étaient pillés, que tous nos proches ont été assassinés, on n'avait plus envie de rentrer dans nos pays respectifs, parce que c'était un désert total. Et donc on a refusé, et en refusant, si vous voulez, grâce à Geneviève Antonios qui a pris ça, elle en a parlé à De Gaulle, et De Gaulle a décidé que 900 adolescents, dont 3 enfants, qui avaient 10 ans, ces 900 adolescents, la France allait accueillir la moitié, 423, et les autres étaient dispatchés dans les différents pays européens. C'était une chose extraordinaire. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être dans le groupe qui partait pour la France. Et là, j'ai eu de cesse de savoir ce qui est arrivé aux membres de ma famille en France. Et il se trouve, là, j'ai retrouvé mes 3 oncles. Mais leurs femmes ont été déportées. Et leurs enfants aussi. Pendant la rafle à Paris en 1942, mes 2 cousines germaines. Donc, ils ont été déportés. Mais les oncles ont survécu. Et j'ai eu hâte de le retrouver. J'ai mis du temps, c'était assez difficile, mais je le retrouvais. Mais malgré cela, alors qu'un des oncles qui voulait même m'adopter à l'époque, et je refusais parce qu'il fallait, à l'époque, il fallait abandonner le nom d'origine. Il fallait prendre le nom de l'adoptant, qui était le nom de ma mère, c'est vrai. Mais je ne voulais pas abandonner le nom de mon père, donc j'ai refusé l'adoption. Et en plus, j'ai décidé de quitter l'Europe, comme la majorité de mes camarades. Quand vous dire que le 423, qui était regroupé à Écuy, en Normandie, en quarantaine, ce qu'on appelle, pendant 40 jours comme ça, je peux vous dire, au bout de la quarantaine, il y a tout de suite 180 sont partis en mois de juin, fin juin, début juillet, sont partis en Palestine légalement. Et des autres sont partis dans les différents pays extra-européens. Et moi-même, j'ai pris la décision de quitter l'Europe, malgré les conditions très favorables que j'avais en France pour faire des études, pour faire n'importe quoi. j'ai refusé. Et je suis parti. J'avais besoin de ce départ pour quitter l'Europe. Parce que pour nous, l'Europe était une terre vraiment interdite, imprégnée du sang et des cendres de tous les nôtres. Et on ne voulait plus marcher sur cette terre-là. Et je ne regrette pas, d'ailleurs, j'ai fait des choses tout à fait intéressantes et importantes là-bas. Mais au bout de 7 ans, comme je voulais faire des études, que je n'avais pas le moyen de le faire là-bas, je n'avais pas de famille, je n'avais pas d'argent, etc. J'étais dans un kibbutz, je vivais dans une collectivité agricole, en Basse-Galilée, et donc je ne pouvais pas le faire là-bas, donc je suis rentré en France pour entreprendre des études. C'est là que le problème, tout a commencé, mais avec un décalage de 10 ans.
Et là, c'est encore une nouvelle vie qui vous appartient, que vous avez décidé de construire. Vous avez recommencé des études au niveau de la 4e, parce que vous ne saviez rien. Vous avez passé votre baccalauréat, vous avez entrepris des études de médecine, vous êtes devenu un grand patron de chirurgie. Nous allons écouter la parole de Serge Klaasfeld. Il va parler de vous et il va vous poser une question.
L'histoire s'écrit avec les historiens qui travaillent avec les documents, elle s'écrit aussi avec les témoins protagonistes qui ont vécu cette histoire et on confronte à la fois les documents et les témoins pour pouvoir éclairer et pouvoir écrire une histoire qui, sans les témoins, serait une histoire décharnée, et avec uniquement les témoins, ça serait une histoire fragmentée. Mais le témoignage des Libusins, il est un témoignage parmi d'autres, mais un témoignage exceptionnel par le fait que Élie Buzyn a fait preuve d'une volonté pour d'une maturité pour un enfant, mais il a surmonté toutes les épreuves physiques, et cette épreuve lui a donné dans la vie une force irrésistible. Il y en a qui ont été abattus, qui ont été écrasés par ce qu'ils ont vécu et qui n'ont pas pu réagir, et d'autres qui ont réagi, c'est selon le caractère. Il n'y a pas que la période concentrationnaire, il y a la suite, et la suite dépend de ce qu'il a vécu dans le camp. Le camp l'a forgé, un homme plein d'humanité, alors qu'il aurait pu être un homme plein d'aigreur. Il y a perdu ses parents, et donc il aurait pu être, comment dire, passif, il aurait pu être dur. Certains ont suivi ce chemin, et d'autres, comme lui, ont choisi d'être proches des autres, et surtout de faire preuve d'une volonté implacable vis-à-vis de lui-même, de se forcer à pouvoir agir en fonction des valeurs qu'il avait acquises au sein de cet univers impitoyable. C'est même pas quelle question lui poser. Où a-t-il pu puiser cette force? Ou considère-t-il qu'au fond, à titre personnel, que ça a été une chance pour lui que d'avoir vécu cette épreuve, c'est-à-dire une chance?
Vous réfléchissez, Élie Buzyn, à la question que vous posez, Élie Wiesel. C'est une question audacieuse. Est-ce que ça a été une chance de souffrir tellement?
Non, ça n'a pas été une chance, mais si vous voulez, le problème de l'attachement qu'on a à nos générations précédentes, à savoir nos parents et nos grands-parents, est un stimulant extrêmement important. Et de fait, je peux vous dire que tout ce que je faisais après, j'avais toujours une question dans ma tête en disant, en faisant cela, qu'est-ce qu'aurait pensé de moi ma mère ou mon père ou mes grands-parents, mon grand-père paternel ou qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Et je sentais qu'ils auraient approuvé telle ou telle chose ou désapprouvé une autre. Et je peux vous dire, dans la conduite quotidienne, ça compterait beaucoup pour moi, le fait qu'ils soient plus là, qu'ils aient disparu d'une façon aussi violente, aussi douloureuse, était pour moi un stimulant énorme en disant, je fais des choses qu'ils auraient voulu que je fasse. Et c'était pour moi vraiment un stimulant important pendant toutes les années.
Aujourd'hui, vous continuez à aller à Auschwitz ?
Oui, je continue à aller au moins une fois par an, parfois deux fois. J'avoue que ça me fatigue de plus en plus, mais enfin, chaque année, je me dis que c'est la dernière fois, et puis l'année d'après, et on insiste un petit peu, et puis je me force moi-même aussi, parce que pour moi, le voyage là-bas, à part le devoir de mémoire, pour amener des gens avec moi dans ce voyage, et de jeunes surtout, et des moins jeunes, pour expliquer ce qui est arrivé, pour moi aussi, c'est une visite annuelle que je rends hommage à tous les miens qui ont péri là-bas.
Vous avez une fille qui s'appelle Agnès. Oui. On parle assez souvent d'elle parce qu'elle est ministre dans ce gouvernement. Elle dit de vous quelque chose de très intéressant. Elle dit, je la cite, « Mon père a sublimé l'expérience épouvantable des camps sans s'en rendre compte ». Pensez-vous que votre fille a raison, Élie Buzyn ?
C'est exact. Sur le moment, ce que j'ai fait, ce n'était pas une analyse que je l'ai faite parce que j'étais dans les camps, parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Je l'ai faite, mais en m'analysant moi-même, 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après, j'ai compris pourquoi je l'ai fait.
Dernière question, Élie Buzyn. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'hier, vous aviez eu 90 ans. Vous nous avez aussi dit qu'un de vos amis était mort récemment à l'âge de 109 ans. Donc,
108.
Combien de vies nouvelles vous imaginez pour vous ?
J'ai du mal à imaginer si je me porte bien, si je garde la tête. Moi, je trouve l'essentiel. C'est le physique, bien sûr, mais ce qui commande, c'est la tête. Si vous gardez une tête claire, une mémoire pas trop, bien sûr, il faut s'habituer qu'il y a des manques, il y a des oublis, etc. Mais si vous gardez une tête claire, c'est une bonne chose parce que quoi qu'on fasse, on accepte mieux avec une tête claire de diminuer petit à petit pour quitter ce monde d'ici X temps. Maintenant, sans se donner des délais précis.
Voilà. Ben, merci infiniment.
Non,
merci.
Je ne sais pas, c'est moi qui vous remercie
de
m'avoir écouté. Et je pense pour les jeunes générations, ce qui est très important quand même, c'est qu'il faut qu'ils aient un but. Si elles ont un but, elles trouveront toujours le chemin pour y arriver. Parce que la majorité des jeunes actuellement, ils sont un petit peu en l'air, ils ne savent pas très bien où ils vont, et donc ils pataugent un peu. Alors que s'il y a un but où on veut arriver, ce but-là vous fait trouver le chemin. Voilà.
Merci infiniment, Élie Buzyn. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un très beau livre qui s'intitule « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre ». Maintenant, vous vivez.
Maintenant, je revis toujours, je continue à revivre. Voilà.
Merci beaucoup. Yeah.
dressées aux vitres givrées.
C'était Kiev de Vanessa Paradis. Merci à toutes et à tous et merci infiniment, Élie Buzyn. Je rappelle que votre livre « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre » est en librairie et que prochainement, le 16 avril, sera publié « Ce que je voudrais transmettre, lettre aux jeunes générations » aux éditions Alizio. Merci à Stéphane Boja qui était à la technique ce soir, à Élodie Royen, Sophie Dazard et Antoine Joubert, ainsi qu'à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, et bien sûr à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour la suite de son Very, Very, Very Good Trip.